mimétiquement vôtre, Voir le monde avec René Girard.
Une émission proposée par Jean-Louis Salasque. Bonjour Jean-Louis, bienvenue aux auditeurs.
Bonjour Catherine, j'aimerais évoquer aujourd'hui l'apport de René Girard en matière d'histoire et de géopolitique. Il aborde ces domaines dans son dernier livre « Achever Clausewitz ». Et bien sûr, il applique à l'échelle des relations entre les nations les mécanismes que son anthropologie propose à l'échelle des personnes. Mimétisme, rivalité, crise, bouc émissaire.
Est-il légitime de le faire ? Il n'est pas si évident qu'une nation soit mue par les mêmes ressorts psychologiques que les individus.
C'est bien l'enjeu de ce dernier ouvrage de René Girard, examiner si l'on peut expliquer les événements historiques et géopolitiques à l'aide des concepts de la théorie mimétique. Pour cela, je commenterai plus particulièrement une partie de son livre, celle qui traite des relations entre l'Allemagne et la France au cours des deux derniers siècles. Nous verrons comment les principes girardiens peuvent parfaitement rendre compte de ce qui s'est passé. Nous verrons aussi comment ces relations ont façonné l'ordre international actuel.
Voilà un programme chargé.
René Girard entame l'analyse des relations entre France et Allemagne à partir des guerres napoléoniennes. Pour bien saisir ce qui s'est passé, il est nécessaire de remonter un peu plus loin. Au XVIIIe siècle, l'événement marquant sur le plan géopolitique, c'est l'émergence de la Prusse en tant que grande puissance européenne. Ce fut l'œuvre de Frédéric Guillaume Ier, dit le roi sergent, qui édifia une armée puissante, puis de son fils Frédéric II, le despote éclairé, ami de Voltaire, qui régna 46 ans. Allié de la France lors de la guerre de succession d'Autriche, la Prusse arracha la Silésie à l'Empire autrichien. La Silésie est le sud-ouest de l'actuelle Pologne. 10 ans plus tard, la Prusse est alliée à l'Angleterre contre l'Autriche et la France lors de la guerre de 7 ans. Prusse et Angleterre sortent victorieuses et la France perd toutes ses possessions en Inde et en Amérique du Nord. La Prusse est désormais une grande puissance européenne et son armée est redoutée.
Les mécanismes de Girard sont-ils présents ?
C'est le cas. La dynamique des rivalités est facile à voir. France et Angleterre se concurrencent aux Indes et en Amérique du Nord. Un autre indice girardien réside dans le célèbre renversement d'alliance. Les alliés de la guerre de succession d'Autriche devinrent des adversaires de la guerre de 7 ans. Or, c'est l'anthropologie de René Girard qui a expliqué très précisément comment des amis peuvent subitement devenir des rivaux. Enfin, l'ascension de la Prusse est un phénomène mimétique. Frédéric II voulait que son pays devienne une puissance à l'instar des grands royaumes et empires d'Europe, Angleterre, France, Autriche, Russie. Il était fasciné par la culture française et se voulait un roi philosophe.
Jean-Louis, c'est le roi qui a été touché par le mimétisme. Cela suffit-il à dire que la Prusse tout entière l'était ?
Non, bien sûr, même si le chef sert souvent d'exemple. Mais le comportement géopolitique d'un pays, c'est le comportement de son dirigeant. Surtout quand celui-ci est un despote, même éclairé.
Au passage, tu réponds donc à la question que je me posais sur la transposition à l'échelle d'un pays d'un comportement individuel.
Tant mieux. Pour conclure cette séquence d'avant les guerres napoléoniennes, disons qu'au tournant du XVIIIe siècle vers le XIXe, la Prusse est un pays solide, fier d'avoir accédé au rang de puissance européenne et fier surtout de son armée, parée d'une prestigieuse réputation. Mirabeau dira « La Prusse n'est pas une nation qui s'est dotée d'une armée, c'est une armée qui est devenue une nation. »
Nous passons maintenant à l'analyse de Girard.
Allons-y. René Girard entame son analyse par la bataille d'Iéna. Nous sommes en 1806. Napoléon affronte la 4e coalition. C'est curieusement le premier affrontement des armées prussiennes avec l'empereur des Français. En particulier à Austerlitz, l'année précédente, les armées russes et autrichiennes avaient attaqué Napoléon sans attendre l'armée prussienne qui était en route pour se joindre à l'affrontement. Ce qu'on appelle la bataille d'Iéna est en fait un couple de 2 batailles qui se déroulèrent le même jour. Iéna proprement dite et Auerstedt, conduite par Davout. Le résultat de cette double bataille fut pour la Prusse non seulement une catastrophe, mais une humiliation. Elle perdit 45 000 hommes et l'intégralité de son artillerie. Napoléon occupa Berlin, et lors du traité de Tilsit, la Prusse fut démembrée entre la Russie et l'Empire français. Elle conserva à peine la moitié de son étendue d'avant la guerre.
Tu as parlé d'humiliation. Est-ce ici que l'anthropologie de Girard intervient ?
Tout juste. René Girard explique comment cette humiliation engendra tout le comportement géopolitique prussien, puis allemand, pour les deux siècles à venir. Les Prussiens étaient fiers de leur armée. Elle l'avait emportée sur l'Empire d'Autriche, sur le Royaume de France, elle avait tenu en respect la Russie. Puis Napoléon avait vaincu tout le monde. Seuls les Prussiens, qui ne l'avaient pas encore affronté, se sentaient capables d'en venir à bout. Et voilà qu'en à peine 3 heures, cette armée était vaincue et même détruite. Cette humiliation inspira aux dirigeants prussiens un désir de revanche. Le roi de Prusse décida de fonder un état-major moderne, chargé de préparer cette revanche. Cet état-major fut constitué et dirigé par 2 officiers généraux, Scharnhorst et Clausewitz.
Le Clausewitz du livre de Girard ?
Exactement. Clausewitz écrivit un traité de stratégie tirant les enseignements des campagnes napoléoniennes. Le nouvel état-major naquit et vécut dans l'idée d'effacer l'humiliation d'Iéna. Pour s'y préparer, il adopta la pratique du Kriegsspiel, traduction mot à mot « jeu de guerre », une pratique qui désignait des séances au cours desquelles les officiers supérieurs s'exerçaient à des simulations de conflits. Pour René Girard, le moteur de tout cela était la soif de revanche. La Prusse prit petit à petit la tête des nations allemandes. Et la revanche vint avec la guerre de 1870, que Bismarck déclencha sciemment. Les Allemands l'emportèrent, occupèrent Paris et annexèrent l'Alsace et la Lorraine. Proclamer le nouvel empire allemand, le Second Reich, par une victoire sur le neveu de Napoléon, et à Versailles, un lieu mythique entre tous, aux yeux de Frédéric II, le fondateur de la puissance prussienne, voilà du Girard à l'état pur.
Le cycle ne s'est pas arrêté là.
Malheureusement, non. C'était au tour des Français et de leurs dirigeants d'éprouver un sentiment d'humiliation. Le mot d'ordre était de reprendre l'Alsace et la Lorraine. Tous les yeux étaient braqués sur la ligne bleue des Vosges. La Première Guerre mondiale éclata à la suite d'un jeu complexe de facteurs, dont l'ossature était la rivalité de puissance entre l'Angleterre et l'Allemagne. Si l'esprit de revanche prédominant en France ne fut pas la cause directe du conflit, il contribua cependant à favoriser son déclenchement. L'aboutissement en est connu. C'est le massacre mutuel des jeunesses européennes. Le résultat en fut le déclin de l'Europe et l'affirmation des États-Unis, comme en témoigne la prééminence du président Wilson dans la négociation du traité de Versailles. Or, ce traité contenait de quoi relancer le conflit. Non seulement l'Allemagne se voyait condamnée à payer d'énormes dommages de guerre, mais elle était de plus tenue pour responsable de son déclenchement. Nouvelle humiliation, qui bien sûr, ne fit qu'alimenter un nouveau désir de revanche sur lequel un futur chancelier s'appuiera pour conquérir le pouvoir. Nous sommes à nouveau devant ce que Girard appelait le cycle de la violence réciproque.
Et qui conduira à la Seconde Guerre mondiale. Le cycle s'arrête-t-il ?
Il s'arrête après la défaite de l'Allemagne en 1945, par la construction progressive de la communauté puis de l'Union européenne, avec également la volonté des dirigeants de sceller une amitié franco-allemande incarné par le général de Gaulle et le chancelier Adenauer.
Tu disais que ce cycle de rivalité et de violence réciproque avait structuré les relations internationales ?
Oui, tout est issu de la Seconde Guerre mondiale. L'ONU, les membres permanents de son Conseil de sécurité, qui sont les 5 vainqueurs, États-Unis, Angleterre, Russie, Chine et France, même la guerre froide, puisque d'une certaine façon, elle a commencé avec la course entre Russes et Américains pour s'emparer de Berlin. Quant à la construction européenne, son but était explicitement d'enserrer le duo franco-allemand dans un ensemble de pays voisins, d'où l'Europe des 6, avec l'Italie et le Benelux, puis l'Europe des 12, etc. Car la spirale des vengeances réciproques entre Français et Allemands a été considérée comme la source des conflits européens et mondiaux des 2 derniers siècles.
Est-ce absolument le cas ?
En partie seulement, car ce serait oublier le rôle joué par l'Angleterre. Sa rivalité avec l'Allemagne avant 1914 était manifeste. Plus généralement, sa ligne de conduite constante depuis plusieurs siècles a été d'éviter l'apparition d'une puissance unificatrice en Europe continentale. Elle a systématiquement attisé les rivalités entre les différentes nations européennes. Elle a soutenu la Prusse contre la France et l'Autriche pendant la guerre de Sept Ans, puis elle a soutenu la Russie et l'Autriche contre Napoléon, puis la Turquie contre la Russie pendant la guerre de Crimée, puis la France et la Russie contre l'Allemagne, l'Autriche et la Turquie en 1914.
Cela remet-il en cause l'analyse gérardienne de la rivalité franco-allemande ?
Pas du tout. C'est bien l'humiliation de la Prusse à Iéna qui a déclenché l'onde de choc. Les Anglais n'ont fait que l'exploiter, sinon l'attiser.
Une dernière question, Jean-Louis. Cette analyse gérardienne de la rivalité franco-allemande est-elle atypique ou bien se rapproche-t-elle des analyses historiques classiques ?
Elle est assez proche des analyses classiques, auxquelles elle ajoute l'explication par les phénomènes de rivalité mimétique et de cycles de violence réciproque. Je citerai deux auteurs pour illustrer cela. D'abord Jacques Bainville, un historien qui avait mis à sa juste place la rivalité entre France et Allemagne, mais sans en avoir identifié l'origine mimétique. Il est décédé dans l'entre-deux-guerres, tout en ayant annoncé comme inéluctable l'occurrence d'une nouvelle guerre franco-allemande, signe qu'il avait l'intuition de la spirale girardienne. L'autre auteur que je mentionnerai est André Beaufre. Il a servi pendant la Seconde Guerre mondiale et est devenu général. Il est l'auteur d'un traité publié en 1963, Introduction à la stratégie, qui est une référence majeure de son domaine. L'écriture est claire et incisive. Son analyse sur le rôle de la bataille d'Iéna et le cycle des revanches entre France et Allemagne est exactement la même que celle de Girard. Et cependant, aucun des deux n'avait connaissance des travaux de l'autre, ce qui tend à une confirmation mutuelle de leurs analyses.
Nous voilà au terme de notre émission. Merci Jean-Louis. Au revoir.
Au revoir Catherine. Au revoir aux auditeurs.